Seigneur, c'est un honneur ce matin de pouvoir être ici. Merci pour la louange qui était magnifique ce matin. Merci pour chacune et chacun qui se donne à ce ministère et qui nous aide tous les dimanches à te louer, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans notre cœur. Malgré les circonstances négatives du monde aujourd'hui, Seigneur, ici, il est bon d'être vivant. Car nous sommes vivants en Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ vit en nous. Ô Seigneur, alléluia, merci pour l'œuvre que tu as fait en chacun de nous. Merci pour ta mort, pour ta résurrection. Et Seigneur, merci pour l'éternité avec toi, dans ta présence, au ciel qui nous attend. Seigneur, merci encore aussi pour la parole de Dieu qui est si claire, qui nous aide dans nos démarches de tous les jours dans la vie. Et là, le texte que nous voyons, Seigneur, nous aide à savoir comment structurer l'Église pour qu'elle soit vraiment à la gloire de Jésus-Christ, son auteur. Et je te prie maintenant de nous guider. Merci d'avance pour ce que tu veux faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bah écoutez, ce matin, comme vous le savez, nous terminons une mini-série tirée de 1 Timothée 3. Donc je vous invite à aller à 1 Timothée 3. Une mini-série que nous avons commencé il y a deux dimanches de cela sur les anciens conducteurs de l'église locale. Les anciens, les conducteurs de l'église locale. Et donc aujourd'hui, nous voulons terminer cette série dans notre étude systématique de 1 Timothée. J'aimerais, pour nous remettre dans le bain, lire 1 Timothée 3, les versets 1 à 7. Alors on va lire. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Alors écoutez, on va rentrer directement dans le sujet en révisant brièvement ce que nous avons déjà vu, surtout pour les personnes peut-être qui n'étaient pas là, ou pour les personnes qui auraient peut-être oublié ou qui ont raté un dimanche. Alors premièrement, nous avons regardé la définition des anciens. Qu'est-ce qu'un ancien ? Nous avons vu qu'il y a trois mots, trois termes dans la Bible qui décrivent le même homme. C'est le terme ancien, presbytéros, qui parle de la maturité, son âge, une maturité spirituelle. Deuxièmement, il y a l'évêque ou l'épiscopos qui parle de celui qui est surveillant. Il surveille, ou cela signifie vraiment sa fonction de l'ancien. Il mène et surveille l'Église. Et troisième terme, ancien évêque, et troisièmement, le mot pasteur, poimen, qui parle de berger, qui souligne le devoir de l'ancien. Donc ça, c'est la définition de l'ancien. Deuxième chose que nous avons vue, c'est le rôle des anciens. Le rôle des anciens, et là nous avons vu que les anciens ont six responsabilités. Premièrement, ils dirigent l'Église. Deuxièmement, ils nourrissent l'Église. Donc je ne fais que réviser, hein. Troisièmement, ils protègent l'Église. Quatrièmement, ils soignent l'Église. Cinquièmement, ils prient pour l'Église. Et sixièmement, ils établissent d'autres responsables dans l'Église. Nous avons conclu que c'est du travail d'être ancien. Deuxièmement, que c'est un travail merveilleux parce que 1 Timothée 3:1 parle d'une œuvre excellente. Et troisièmement, nous avons vu que c'est un travail motivé par l'amour, selon le psaume 23. Et ceci a mené à la troisième partie, les conditions pour être ancien. On a vu qu'il faut en premier vouloir être ancien. 1 Timothée 3:1 dit... Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc il faut aspirer, il faut le vouloir. Deuxièmement, il faut pouvoir être ancien, il faut avoir le temps, tout simplement. Le temps. Ah, t'as trouvé, c'est très bien David. D'accord? Et troisièmement, il faut être qualifié pour être ancien, et ça, c'est ce que nous avons donc regardé plus en détail la semaine dernière. Et ça, ça mène au quatrième grand point, les qualifications pour être ancien. Alors, nous avons constaté la semaine dernière, en commençant les qualifications, que la barre est très haute. Et pourquoi est-ce que la barre est si haute? C'est assez simple, quelque part. C'est parce qu'une église ne dépassera jamais le niveau spirituel de ses leaders. Donc, là où sont les leaders, là va être l'église. Et Dieu veut que son église soit sainte, et il veut que les leaders de l'église donnent l'exemple et qu'ils soient des modèles, selon 1 Pierre 5, 3. Et nous avons aussi vu, c'est très intéressant en examinant la liste des qualifications, que ces qualifications sont des qualifications, écoutez très bien, purement morales et non de compétences, sauf pour une. Dieu veut des hommes de caractère mûr et pas, comme j'ai dit la semaine dernière, des hommes qui sont choisis parce qu'ils sont sympas ou compétents dans un domaine quelconque. Non, les conditions pour être ancien sont des conditions morales. Alors nous avons commencé, je ne fais que de mentionner ce que nous avons déjà vu. Première qualification, il est dit, cette parole est certaine, 1 Timothée 3:1, et si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Alors il y a 21 qualifications, d'accord? 20 ou 21, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être irréprochable? Eh bien, cela veut dire avoir un caractère sans question. Il n'y a rien dans sa vie, il n'y a pas de défaut évident auquel nous pouvons pointer le doigt. Lorsque l'ancien pêche, et je viens de le souligner, il pêche, comme tout le monde, mais lorsqu'il pêche, il règle son péché rapidement. D'accord? Deuxièmement, il doit être mari d'une seule femme. Alors, nous avons regardé plusieurs des interprétations possibles et nous avons conclu qu'il est la question d'un homme dévoué à une seule femme, la sienne. Il aime sa propre femme, il ne pense qu'à elle, la femme que Dieu lui a donnée. Et bien sûr, il parle de fidélité sexuelle, mais aussi de cœur. C'est un dévouement vis-à-vis de son épouse. On a vu que ça n'exclut pas les célibataires à être anciens, seulement qu'ils doivent être purs moralement et sexuellement avant leur mariage, si Dieu leur permet de se marier. Nous avons aussi vu que ces qualifications excluent les femmes de pouvoir être anciens, car il est impossible pour une femme d'être mariée d'une seule femme. Et nous n'avons pas parlé des hommes divorcés, mais on m'a posé la question, c'est une très bonne question. Est-ce qu'un homme divorcé pourrait être ancien? La réponse est celle-ci, cela dépend de la nature du divorce, car certains divorces dans la Bible semblent être permis dans les Écritures, comme dans le cas d'un adultère endurci du conjoint. Donc, mais cela, je pense, va demander une analyse tout simplement vis-à-vis des anciens sur place par rapport à comment interpréter le cas en particulier vis-à-vis de cela. Donc ceci mène au troisième point, où nous avons vu que l'ancien doit aussi être sobre. Et il doit donc rejeter tout ce qui diminuerait sa capacité de penser et agir clairement. Quatrièmement, il doit être modéré ou sensé. Il doit être sérieux en ce qui concerne les choses spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rire, mais il ne devrait pas être connu comme étant un bouffon, tout simplement. Il est sérieux. Cinq, il doit être réglé dans sa conduite, le mot cosmos. Il doit être bien arrangé, sa vie est ordonnée. Ce n'est pas le chaos total chez lui ni dans sa vie, mais il est relativement systématique dans son approche à la vie. 6. Il est hospitalier. Il doit montrer littéralement de la gentillesse envers les étrangers. 7. Je vais vite parce qu'on a déjà vu toutes ces choses. Il doit être propre à l'enseignement. On a dit que c'est la seule qualification qui est, disons, une qualification qui n'est pas morale. Cela, elle parle de ce qu'il doit pouvoir faire dans l'Église. Il doit être propre à l'enseignement, il doit être capable d'enseigner et de communiquer la parole de Dieu. Et comme Tite 1, 9 nous le dit, il doit pouvoir faire deux choses. Un, il doit pouvoir enseigner la saine doctrine. Et deux, il doit pouvoir réfuter les contradicteurs. Donc il doit être solide bibliquement pour pouvoir le faire. 8, il n'est pas adonné au vin. On a vu que cela veut dire qu'il ne doit pas avoir un mode de vie d'un buveur, ni être caractérisé par les traits de caractère souvent associés au buveur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de boire le vin, ça on l'a vu en détail, mais il ne doit surtout pas être connu comme un buveur ni un ivrogne, ça c'est évident. Et 9, il ne doit pas être violent, littéralement, il ne doit pas donner des coups de poing, d'accord? Donc, pour régler les problèmes à l'église, c'est mieux de ne pas se donner des coups de poing, d'accord? Alors ça, on l'a vu. Alors ça, ça nous amène à aujourd'hui. Point 10, d'accord? Point 10, et nous voulons terminer cette liste ce matin. Alors, point 10. L'ancien doit être indulgent. Indulgent. Qu'est-ce que ça veut dire être indulgent? Le mot veut dire être patient. Agir envers les autres avec considération et grâce. Ça veut dire qu'il ne cherche pas à dominer les autres. Pratiquement, il se rappelle du bien et oublie le mal chez les autres. Ça, c'est très intéressant, je pense, très pratique. Il oublie facilement le mal qui a été fait contre lui. Et même lorsqu'il applique la discipline, et les anciens sont parfois malheureusement obligés à appliquer la discipline, ils appliquent Galates 6:1, « Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Il faut redresser, mais c'est le mode, la manière, avec douceur. Et dans ce sens-là, il est indulgent. 11. Il est pacifique. Pacifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être atlantique. C'est une blague, d'accord. C'est pas la mer, d'accord. C'est le terme. Il est pacifique. Ça veut dire littéralement, c'est un procureur de paix. Un procureur de paix. Il n'est pas contentieux et repousse les disputes. Il n'aime pas les disputes. Il n'est pas agressif au point d'offenser les autres. Il n'insiste pas sur ses propres droits. Il garde son sang-froid, il ne s'emporte pas et il veut essayer, je dis bien essayer, c'est pas toujours possible, mais il veut essayer à aider les gens qui sont en conflit à se réconcilier. Jésus l'avait dit dans Matthieu 5:9, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc bien sûr, lui-même est en paix avec Dieu, mais il veut que les autres soient en paix avec Dieu, que ce soit des non-chrétiens. Mais je pense ici au niveau de l'Église, dans les rôles de conflit, il veut tout faire pour diffuser les conflits, aussi rapidement que possible. 12. Il doit être désintéressé. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé aux gens dans son Église, d'accord? Ça ne veut pas du tout dire ça. C'est en fait au niveau de l'argent, ce terme. Il ne doit pas avoir ses yeux fixés sur les récompenses monétaires. Il ne travaille pas pour être payé. Ce n'est pas ça son mobile. D'accord? Il ne doit pas être préoccupé par l'argent ni par les possessions matérielles. Il ne recherche pas à s'amasser des fortunes. Dans Tite 1.7, le terme dans le texte parallèle, il est dit qu'il ne doit pas être porté un gain honteux. Littéralement, il n'est pas porté par un profit qui est sale. Un ancien n'est pas un homme qui va s'enrichir de manière sale. Il doit être honnête dans son travail et il doit refuser toute affaire financière douteuse. Il ne gagne pas sa vie, et surtout pas sur le côté, en cachette, disons, d'accord, par la magouille, ou par le vol, ou par les pots de vin, ou par d'autres moyens honteux. Non, il est honnête et il paye ses impôts. Il tient ses affaires de manière irréprochable. Toute personne a le droit de gagner sa vie et de prospérer. Jésus l'a dit dans Luc 17, l'ouvrier mérite son salaire. Un ancien ou un pasteur a le droit de gagner sa vie par le biais de son travail. Ça, c'est un droit. Il n'est pas toujours appliqué, mais c'est un droit. Dans Corinthiens 9, le verset 11, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-il pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Ce texte semble indiquer qu'il est tout à fait honorable pour un ancien ou un pasteur d'être rémunéré pour son travail de pasteur. C'est pas un mal, c'est juste et c'est normal. Dans Éphésiens 5, 10, non, c'est plutôt 1 Timothée 5, 17, excusez-moi, il est dit ceci, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Et là, on a l'impression que ce double honneur dont il est parlé suggère que celui qui est rémunéré pour son travail de prédication, de pasteur ou d'ancien et d'enseignement, devrait être rémunéré d'une manière assez généreuse afin que les finances, ou plutôt le manque de finances de cet homme, ne soient jamais un sujet de frustration pour lui et donc une distraction par rapport à son travail. Son travail donc de prédication et d'enseignement. Alors ce n'est pas une obligation de rémunérer un tel homme, mais un droit, et un droit que chaque église locale doit, disons, appliquer si elle le sent qu'elle a le besoin de le faire. Et ça, c'est ce que nous espérons un jour. Moi, étant missionnaire, je reçois mon salaire des États-Unis aujourd'hui, mais nous espérons qu'un jour, lorsque cette église aura un pasteur, je dirais, local, que l'église va pouvoir rémunérer ce pasteur. Ça, ce serait vraiment le rêve dans les années à venir, que le Seigneur puisse vraiment pourvoir pour que l'église soit, et un ou plusieurs pasteurs. Ça, c'est ce qu'on espère. Et ça, ce serait vraiment quelque chose de merveilleux si un jour le Seigneur permet cela pour cette église. Alors voilà, tout ça pour dire que le pasteur, celui qui est rémunéré ou l'ancien, ne l'est jamais pour de manière désintéressée. Même, je dirais, un ancien qui n'est pas payé par l'Église, peut-être qu'il a un travail sur le côté, hein, parce qu'il faut vivre, la Bible dit clairement qu'il faut travailler, eh bien, ses affaires de travail sont en règle. Il est honnête, il est droit. 13. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Alors là, j'aimerais quand même m'arrêter là-dessus quelques minutes parce que c'est très intéressant. On va lire ces versets. Regardez au verset 4. Il dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il est intéressant de constater que sur ce point-là, et uniquement ce point-là, il y a deux versets entiers qui sont consacrés. C'est intéressant quand même. Deux versets. La plupart des autres points sont un mot ou une petite phrase. Ici, il y a deux versets entiers. Ceci montre tout simplement que ceci est un point très important, primordial. Donc, il ne faut pas le prendre à la légère. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, il dit qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Le mot « diriger » parle de présider, avoir l'autorité dessus. Cet homme, le mari, le père, est celui à qui Dieu donne ultimement la responsabilité du comportement des enfants. L'idée de dire « Ah, moi, je m'occupe de mon travail et mon épouse s'occupe des enfants », ça, c'est assez étranger aux Écritures comme attitude. Non, ultimement, c'est l'homme qui va être tenu responsable, même si l'épouse passe plus de temps généralement avec les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'ancien est appelé à bien diriger sa propre maison, cela veut dire que lorsque vous rentrez dans la maison d'un ancien, les choses familiales sont en ordre, en règle. Ce n'est pas le chaos total lorsque vous rentrez chez lui. Il y a de l'ordre. Oui, ses finances sont en ordre, mais sa femme, si je peux dire ainsi, est en ordre. Lui est en ordre, sa femme est en ordre, ses enfants sont en ordre. C'est une femme qui, nous espérons, reflète les vertus décrites dans Proverbe 31. Une femme qui s'intègre bien dans le cadre de la famille, épanouie dans son rôle, et ses enfants aussi. Et il dit en plus, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, virgule, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. De nouveau, c'est à lui à ultimement tenir ses enfants. Pourquoi? Pourquoi faut-il les tenir, les enfants? Ben ça, il faut venir jeudi soir. Ben ça, on en a parlé. On en a parlé longuement jeudi soir. C'était vraiment intéressant. Tout le monde est d'accord que les enfants sont nés avec un vaccin où ils apprennent directement et immédiatement, sans qu'on leur apprenne, à dire non. Pourquoi est-ce que les enfants, on ne doit jamais leur apprendre à dire non, mais il faut leur apprendre toute leur vie à dire oui et obéir? Parce que, nous avons vu, l'enfant est né pécheur. Et il est né rebelle de nature. Et donc les parents sont donnés à ces enfants par une grâce de Dieu pour que ces parents tiennent leurs enfants et leur inculquent les vérités de Dieu pour que leur cœur soit transformé un jour et que ensuite eux-mêmes puissent suivre le Seigneur. Et donc ici nous voyons que c'est ultimement le papa, l'ancien, qui doit tenir ses enfants. Éphésiens 6, 1 et 4 nous dit qu'il le fait de deux manières, en instruisant l'enfant et en disciplinant l'enfant. Voilà les deux choses qu'il faut faire, mais on ne va pas refaire tout le cours maintenant. Il faut venir jeudi soir pour la suite. Donc il doit tenir ses enfants comment ? Dans la soumission, il est dit. Dans la soumission, le texte nous dit. Donc les enfants ne sont pas rebelles, ne sont pas insoumis. Alors ça ne veut pas dire qu'un enfant ne va pas avoir des tendances rebelles, mais les parents, et en particulièrement le papa ici, a l'autorité sur l'enfant, il ne lui permet pas n'importe quoi. Les crises de colère, elles sont vite vues, elles sont vite corrigées. Les enfants respectent leurs parents et ils sont disciplinés de manière juste et droite. Ils doivent être donc tenus dans une soumission et dans une parfaite honnêteté, littéralement toute gravité. C'est l'idée ici d'un comportement droit. Toute honnêteté, toute gravité, c'est vraiment un terme qui parle de dignité. C'est un enfant, alors bien sûr il sait rire, c'est un enfant normal, il aime bien jouer, s'amuser avec ses copains et tout, mais à un moment donné, il y a une droiture. L'enfant peut être sérieux, il peut être digne. Digne. Le même mot utilisé dans Tite 2.7 et dans Timothée 2.2. Alors, pourquoi des critères si exigeants ? Et on n'a pas fini avec les critères sur ce point-là. Mais regardez déjà le verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ? C'est très intéressant, très intéressant. Écoutez bien. Il est en train de dire, si un homme est laxiste avec ses enfants, ben il sera laxiste avec l'Église. Si un homme est trop sévère avec ses enfants, il sera trop sévère avec l'Église. Mais si un homme aime ses enfants, corrige ses enfants dans la discipline et avec amour, s'il dirige bien sa maison, alors il va diriger l'Église de la même manière. En fait, la question est celle-ci. Voulez-vous voir comment un homme mènera l'Église ? Eh bien, regardez à ses enfants, regardez à son épouse, regardez à sa famille, car l'homme va mener l'Église de la même manière qu'il mène sa famille. Voilà le but ici. Donc c'est très important de sonder et avoir le regard sur la famille. Allez avec moi maintenant à Tite 1. Tite 1. Un livre plus tard. Deux livres plus tard. À droite. Parce que là, il donne quelques indices incroyables, très, très, très intéressants, dans Tite 1. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Il parle à Tite, il dit « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il y trouve quelque homme irréprochable, regardez, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. » Alors il y a un grand débat sur cette qualification. Regardez ce qu'il dit. Il dit qu'il doit avoir des enfants fidèles. Alors la question c'est, que veut dire le mot « fidèle » ? Car il y a deux interprétations générales de ce verset. Le mot pour « fidèle », « pistos » en grec, peut être utilisé de deux manières. Il peut dire « fidèle », donc quelqu'un qui est fidèle, sympa, droit, juste, bon et tout. Ou bien « croyant », « converti ». Donc, est-ce que ce verset nous dit que les enfants d'anciens ne doivent pas être des convertis, mais tout simplement fidèles ou sages ? Où est-ce que ce verset dit que les enfants d'anciens doivent être croyants, c'est-à-dire qu'ils doivent être convertis à Jésus-Christ ? Bonne question. Maintenant, il faut que j'en réponde. Alors, regardons les deux options. La première option, c'est que les enfants doivent être fidèles, mais pas nécessairement convertis. Alfred Kuhn, par exemple, adopte cette position. Et lui, il dit ceci dans son livre « Les responsables ». Que les enfants d'anciens ne doivent pas être convertis, mais simplement fidèles dans le sens général du terme. Je le cite. « Faut-il que les enfants soient tous convertis ? La parole de Dieu, dit-il, ne l'exige pas. Le mot pista signifie aussi bien être fidèle que croyant. Le contexte de 1 Timothée 3:4 fait pencher vers le premier sens, puisqu'il est précisé qu'ils ne doivent être ni accusés de débauche, ni rebelles ou indisciplinés. Les enfants peuvent parfaitement répondre à ces conditions sans avoir encore accepté personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. L'exemple de parents fidèles et justes a certes un grand pouvoir sur les enfants, mais ne garantit nullement leur conversion. Chacun d'eux reste libre devant Dieu et devant les tentations. On connaît, hélas, bien des enfants de parents chrétiens irréprochables qui ont mal tourné. Cependant, tant que les enfants sont mineurs et logent sous le toit paternel, il est important que le père garde autorité sur eux. Donc lui, il penche pour l'interprétation qui dit non, un enfant sage, c'est OK, on n'est pas obligé d'avoir des enfants convertis. Un autre commentateur qui s'appelle Knight penche vers cette interprétation, mais un peu curieusement. Je trouve qu'il argumente mieux pour la deuxième position. Mais voici ce qu'il dit. Il suggère en fait que le mot pistos, donc fidèle ici, peut être utilisé des deux manières. D'accord ? Et il donne un exemple. Alors j'ai beaucoup d'exemples, mais 1 Timothée 6:2, il parle, il dit ceci. Il est dit, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères. Alors, la grande majorité, enfin tout le monde que je connaisse qui interprète ce verset, dit clairement, voilà, il parle à des esclaves qui ont des maîtres fidèles, qui veut dire des maîtres croyants, convertis. Comment la relation doit-elle se passer entre les maîtres croyants convertis et des esclaves? Donc là, c'est clair que le terme veut dire converti. Mais ensuite, Knight va à 2 Timothée 2:2 pour donner un exemple que lui considère être un exemple de ce mot utilisé qui veut dire fidèle, mais pas converti. Alors, vous connaissez le verset très bien, je pense. 2 Timothée 2:2. Peut-être on va commencer au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Voici notre terme. Qu'il soit capable de l'enseigner aussi à l'autre. Et là, ils disent, là, c'est clair que le terme veut dire fidèle, sage, mais pas converti. Alors moi, j'ai relu ce verset, je ne sais pas combien de fois, pour me dire, attends, voir, le contexte, est-ce que là, on est en train de dire que Paul est en train de dire à Timothée, toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, donc toi, converti, Timothée, est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes pas convertis? Des hommes sages, bons, bien, mais pas convertis, afin qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres aussi. Moi, franchement, j'ai pas l'impression que ce terme décrit un non-chrétien. Et surtout du fait qu'en Corinthiens 2 nous dit qu'un non-chrétien n'a même pas les pensées de Christ. Je pense qu'il est en train de dire dans 2 Timothée 2:2 qu'il doit donner la parole qu'il a enseignée, lui chrétien, à d'autres hommes fidèles. Croyants, chrétiens, qui eux vont le donner à d'autres hommes. Je pense, ça c'est ma compréhension de ce texte. Il est douteux que Paul parle d'hommes fidèles non convertis. Mais bon, ça c'est ma conclusion par rapport à Knight. Donc, voici la première option. La première option sur ce verbe, c'est que les enfants doivent être sages, pas convertis. Deuxième option, c'est que ce terme veut vraiment dire que les enfants, les anciens, doivent être convertis. Là, je cite MacArthur qui adopte cette position. Elle lui préconise que ce terme devrait être interprété comme quoi les enfants doivent être croyants. Et je le cite. Il dit ceci. Le mot pour enfant, technon, est une référence à des enfants de tous âges, petits et grands. Paul vient d'appeler Tite un jeune homme et mon enfant, technon, dans la foi. Le fait qu'il parle de débauche dans le même verset suggère que Paul parle ici d'enfants adultes ou du moins d'un âge où la débauche peut arriver. Mais, écoutez bien, ce qui est significatif à noter, c'est que sauf pour ce verset dans Tite 1:6, souvent contesté, le terme fidèle, pistos, est toujours utilisé dans les Écritures pour décrire des personnes qui sont croyantes. Les non-croyants ne sont jamais décrits dans la Bible comme étant fidèles. Et le seul verset qui a pu être mentionné pour préconiser que peut-être le terme ne voulait pas dire converti, C'est dans 2 Timothée 2:2 que nous venons de voir, et je n'ai pas l'impression que ce verset tient vraiment la route dans cette interprétation. Alors je vais lister certains versets, je ne vais pas les regarder. Actes 16, 15, 1 Corinthiens 4, 2 et 17, Éphésiens 6, 21, Colossiens 1, 7 et 4, 7, Apocalypse 2, 13, sont tous des textes qui montrent clairement que le mot « fidèle » parle et décrit des chrétiens. Lui, MacArthur dit, « ce fait à lui seul témoigne en faveur de la lecture du texte ici qui lit « enfants qui croient », c'est-à-dire des enfants qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Dans le foyer de l'ancien en particulier, si les enfants sont à l'âge pour être sauvés, mais qui ne le sont pas, ces enfants ne peuvent pas très facilement être considérés fidèles, croyants. En fait, ils seraient infidèles vis-à-vis du Seigneur. Alors, quelle est mon opinion ? Quelle est mon opinion ? Ta-da-da, je tranche, d'accord ? Alors, je vous dis franchement que je suis plus à l'aise avec la première interprétation, de dire que les enfants doivent être sages uniquement, pas convertis. Elle est plus facile. Elle est humainement beaucoup moins contraignante. Mais honnêtement, devant le texte, je ne suis pas personnellement encore convaincu qu'elle soit la plus juste. Alors, la deuxième, qui exige que les enfants de l'ancien soient croyants, convertis, me paraît parfaitement plausible et je dirais même plus logique. Le mot « fidèle » vient du mot « foi », qui est un terme spirituel. Et l'argument qui me bouscule le plus, mes amis, c'est le fait qu'il n'y a pas un exemple dans les Écritures où le mot « fidèle » est utilisé pour décrire un non-croyant. Alors je penche, je dis bien, je choisis bien mon terme, je penche vers la deuxième lecture. Je parlais avec un ami pasteur cette semaine, lui aussi penche vers la deuxième lecture, qui est la plus contraignante quelque part. Alors il est en train de prendre un cours dans une faculté de théologie en France, et donc il est allé demander au doyen de la faculté de théologie, vraie histoire, c'est arrivé cette semaine. Il lui a demandé, écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez m'expliquer votre compréhension de Tite 1.6 et du terme fidèle ? Est-ce que vous pensez que les enfants des anciens doivent être juste fidèles, bon sages, ou doivent-ils être convertis ? Et à son plus grand étonnement, mon ami pasteur m'a dit, le doyen s'est fâché contre lui pour avoir posé cette question et a répondu comme tant d'autres répondent, si les enfants d'anciens doivent être croyants, alors il n'y aurait plus d'anciens. Hein, je comprends la réflexion. Il n'y aurait plus d'anciens. Et ensuite, il a aussi dit, et je connais plein d'hommes de Dieu qui servent le Seigneur dont les enfants ne sont pas croyants. Moi aussi. Est-ce que c'est la bonne réponse ? C'est comme ça qu'il faut répondre. Moi, je me pose la question. Si nous avons raison sur cette interprétation du texte, voulons-nous baisser la barre ou est-ce que nous laissons la barre telle qu'elle est dans la parole de Dieu ? Alors vous me dites, ouais, mais John, est-ce que tu es sûr ? Ben, alors, c'est sûr, moi je me sens hyper visé là. Mais j'essaie d'être droit et juste avec le texte. Alors bien sûr, cette interprétation où les enfants doivent être croyants pose quelques problèmes aussi. Est-ce que ça veut dire, je pose la question, je ne réponds pas, mais est-ce que ça veut dire que tous les enfants des anciens sont élus alors ? Ben, s'ils doivent être croyants, on dirait oui. Là, on dit, alors là, j'ai un problème. Oui, mais alors, posons la question d'autre manière. Est-ce que Dieu veut choisir pour anciens seuls les hommes qui ont des enfants élus ? Alors là, on peut répondre oui. Ça dépend de la manière qu'on regarde la chose. Certains diraient, oui, mais est-ce que moi, je peux vraiment déterminer si mon enfant est vraiment croyant ? Bonne question aussi. Comment on détermine si vraiment il est croyant ou pas ? Moi, je dirais qu'il y a deux réponses. Premièrement, est-ce que l'enfant peut articuler sa foi ? Et deuxièmement, y a-t-il du fruit dans sa vie qui révèle qu'il est probablement chrétien, même s'il n'est pas parfait, comme nous d'ailleurs. Bref, question très importante, et je voulais prendre du temps parce que c'est une question qui surgit souvent dans les églises. Souvent. Alors, c'est intéressant, il continue dans Tite 1, sa description de ses enfants. Et regardez ce qu'il dit au verset 6. « Ni accusés, donc il faut que les enfants soient fidèles, qu'ils ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Alors, pas accusés, ça veut dire le mot catégorique, absolument pas. De débauche, le mot grec vraiment parle d'une comme la débauche du fils prodigue. C'est un enfant rebelle, débauche, dans toutes ses couleurs, si on veut, une sorte de vie extravagante qui est contre le Seigneur. Donc là, c'est évident qu'un enfant ne devrait pas vivre de cette, l'enfant d'un ancien ne devrait pas vivre de cette manière. Ou rebelle. littéralement qui ne reconnaît pas l'autorité. Ce n'est pas un enfant qui est insoumis, qui est factieux, insurgé, révolté. Non, les enfants des anciens ne doivent ni être débauchés, ni être rebelles. Donc de toute façon, là, on est tous d'accord, les enfants des anciens doivent avoir des vies qui tiennent la route. Qui tiennent la route. De nouveau, ils ne sont pas parfaits. Je tiens à le souligner. Ils ne sont pas parfaits. Les enfants sont les enfants. Mais avec un cœur converti, eh bien, je pense que l'enfant va montrer le fruit, n'est-ce pas, d'une vie non de débauche et non rebelle. 14. Ça va ? Vous tenez le coup encore ? On a encore quelques minutes, là. 14. Pas un nouveau converti. On a de retour dans 1 Timothée 3. Peut-être parce que j'aimerais vraiment finir ce matin, d'accord ? 1 Timothée 3 et le verset 6. Il dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il doit être, l'ancien, un croyant mature, écarté de toute possibilité d'orgueil qui pourrait être liée à la fonction d'ancien. Il n'est pas jeune converti. Alors, vous dites, ouais, mais jeune, comment est-ce qu'on détermine ? Qui est jeune et qui n'est pas jeune ? Ah, là, je pense que ça dépend de chaque église. Il y a des églises qui existent depuis des années, des années, des années. Il y a plusieurs générations d'anciens. Et là, lorsque l'église est consultée, lorsque les anciens sont choisis, pour eux, peut-être un nouveau converti, c'est quelqu'un qui a 15 ans dans le Seigneur. Parce que la moyenne d'âge de cette église est de 20 ou 30 ou 40 ans dans le Seigneur. Mais peut-être une toute nouvelle église qui commence de zéro, après 1, 2, voire 3 ans, le chrétien le plus âgé, hormis peut-être le pasteur ou le missionnaire qui l'a démarré, a peut-être 5 ans dans le Seigneur. Donc peut-être un nouveau converti dans cette église sera une personne de 1 an ou 2 ans dans le Seigneur. Je pense que ça dépend vraiment de l'église. Est-ce que l'église perçoit comme étant un nouveau converti par rapport aux gens les plus matures dans l'église ? Quel qu'il soit, il ne doit pas être un nouveau converti. Pourquoi ? De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il serait jugé comme le diable a été jugé, donc il serait jugé par Dieu pour son orgueil. Et ça, ce serait terrible, n'est-ce pas ? De mettre un homme en place en tant qu'ancien, et bon, parce que sa jeune foi, il ne comprend pas, il devient orgueilleux, et ensuite Dieu le juge d'une manière ou d'une autre pour son orgueil, ce serait vraiment triste. Donc il faut faire attention de ne pas mettre des gens trop jeunes dans le Seigneur, dans ce genre de position. 15. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Un bon témoignage du ceux du dehors. Ça, c'est intéressant aussi comme remarque, comme caractéristique. Son caractère irréprochable ne doit pas seulement être confirmé dans l'église. Donc, quand on s'informe dans l'église, on dit « Ah ouais, cet homme, tip-top, tip-top, dans l'église, super, tout le monde le considère bien, il est irréprochable, il tient la route, d'accord ?» Mais on devrait pouvoir confirmer et certifier ce caractère à l'extérieur de l'église. Ça veut dire quoi ? Ses voisins, au travail, peut-être même dans sa famille, proche ou éloignée. Il doit avoir à l'extérieur comme à l'intérieur une réputation d'intégrité personnelle, d'amour, de gentillesse, bref, tous les traits qui sont vrais de lui dans l'Église, devraient être vrais de lui à l'extérieur de l'Église. Alors maintenant, si vous allez interroger à droite et à gauche, alors ça, je ne sais pas comment faire. Hein. Je n'ai pas le moyen pratique de savoir comment aller voir à l'extérieur le caractère de cet homme. Mais si vous apprenez qu'à l'Église, il est super à l'extérieur, non mais il est nul quoi, il est malhonnête, il dit des gros mots à longueur de journée, il triche, vous dites, alors il y a un petit décalage dans le caractère. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. La Bible veut que cet homme soit droit. Qu'il soit droit de nature, ici mais à l'extérieur aussi. C'est un homme d'intégrité. Donc là, on vient de terminer les traits de caractère dans 1 Timothée. Allons à Tite et on termine avec quelques qualifications qui se trouvent dans Tite, mais pas dans 1 Timothée. Hein, il n'y en a que quelques-unes. Dans Tite 1:7, il dit... Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Et le mot qui n'apparaît ici, mais pas dans 1 Timothée 3, c'est le mot arrogant. Il ne doit pas être arrogant. Et ça veut dire auto-volonté. il n'a pas un très fort intérêt pour lui-même, au point presque de mépriser les autres. Il se croit vraiment quelqu'un d'important. Non, parce qu'il sait que la manière de servir, la manière de mener, c'est en servant. Donc, il ne se croit pas hyper important. Il reconnaît que Dieu l'a placé dans ce rôle et donc il mène avec joie, mais ça ne lui monte pas la tête. Jésus a dit dans Matthieu 20, 26, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Il devrait mener par humilité, par service, pas avec une attitude d'arrogance. 17, Tite 1, 7, « Il ne doit pas être colérique. » Alors cette qualification peut être liée à la qualification 9, non-violent, qui réduirait la liste à 20 au lieu de 21, et les listes changent un petit peu par rapport à comment on veut les aligner. Tout simplement dire, c'est un homme qui n'est pas habitué à des coups de colère. Alors, ça peut arriver, hein. Soyons honnêtes, on peut tous avoir un coup de colère. J'ai bien dit habitué, c'est vraiment exceptionnel. Ici, les références à quelqu'un qui a une tendance naturelle à la colère. Celui qui a la mèche courte. Et ces gens, on les connaît, vous savez, quand on est à côté d'eux, on se demande si on va dire un mot en travers, pouf, ça explose. Un ancien ne devrait jamais être comme ça. Il ne devrait jamais avoir une crainte d'être vers lui et de dire, aïe, 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 si je dis le truc de travers, c'est fichu, quoi. Et il va me... Hein? Il n'est pas comme ça. Il n'est pas colérique. 18. Ami de gens de bien, verset 8, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ami de choses qui sont bonnes. Ça veut dire qu'il est dévoué à attacher ce qui est nature et bon et juste. Il se limite pas simplement aux gens de bien. Ça veut dire que les gens qui sont droits, justes, corrects, il aime être avec des gens comme ça. Il n'aime pas être avec des gens qui sont caractérisés par le contraire. Et pareil, il est attiré par les choses bonnes, ce qui est bien, pas ce qui est mal. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais il rejette ce qui est mal. 19. Il est juste, Tite 1, 8, mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste. Juste, ça veut dire qu'il est honnête, il est droit. Il honore le bien, il reprend le mal avec droiture, équilibre et sans favoritisme. Lorsqu'il donne des conseils, il essaie d'être droit. Il essaie d'être juste. 20. Il est saint. Saint. Littéralement mis à part. Ça veut dire que le péché dans sa vie, il est là, demandez à son épouse, mais espérons que c'est l'exception dans sa vie et pas la norme. L'exception. Il est libre de péchés flagrants, répétés, habituels dans sa vie. Il est donc irréprochable. Première caractéristique. Et finalement, il est tempéré, dernière caractéristique, opposé de l'excès. Il contrôle ses appétits, il est maître de lui-même. Il sait contrôler que ce soit sa nourriture, sa télévision, son ordinateur, son travail, ses loisirs, son sommeil. Il contrôle sa vie et sa vie n'est pas contrôlée par autre chose. Et voilà toutes les qualifications pour être ancien. J'ai dit à José, écoute José, ça va être peut-être notre dernier dimanche aujourd'hui, d'accord? Donc peut-être qu'il n'y aura plus d'église dimanche prochain, parce qu'après cette liste-là, on dit aïe, 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 aïe. Laissez-moi conclure avec quelques pensées, d'accord? Il ne faut pas être découragé par ces qualités. Quelqu'un pourrait nous dire, ouais John, non, si tu appliques vraiment cette liste, tu ne vas jamais trouver des anciens. Jamais. T'es fou. Ces critères sont utopiques. Tu rêves. Ce genre de réaction que je comprends humainement, je pense que c'est exactement le genre de réaction qui a affaibli l'Église. Nous avons affaibli l'Église par ce genre de réaction. Nous avons baissé les critères de Dieu. Nous avons baissé les critères et les qualifications pour être ancien. Et l'Église a suivi. L'Église a suivi. Comme je l'ai dit au début, l'Église ne dépassera jamais le niveau spirituel ou moral de ses responsables. Si la barre est basse, le niveau général sera bas. Si la barre est haute, la hauteur prescrite dans les Écritures. N'oublions pas, ce sont les critères de Dieu. C'est Dieu qui a dit ça, c'est pas nous. Eh bien, si la barre est haute, alors l'Église montera. C'est ça le but. L'Église montera. Donc je dirais, soyons en fait encouragés que Dieu nous donne une manière si précise dans le choix de nos anciens. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'a dit il y a des années en arrière, c'est quand même super. Elle a dit, car Dieu nous a donné un code, c'est le mot qu'il a utilisé, un code net et clair pour ce qui est attendu des anciens. C'est vrai, au moins c'est clair. C'est vraiment, vraiment clair. Alors que Dieu nous pousse à trouver des hommes selon les critères de Dieu. Alors, deuxième chose que j'aimerais dire, ces caractéristiques sont donc requises pour être ancien. Cependant, ces qualités devraient-elles les qualités auxquelles chaque chrétien devrait aspirer? Je l'avais dit aussi dimanche dernier. Voyez-vous, écoutez bien, l'idéal dans une église, c'est quoi? C'est que tous les fidèles soient qualifiés, tout le monde. Imaginez que tout le monde était qualifié. On vivait tout ça. Parmi lesquels certains sont choisis comme anciens. Ça, c'est la norme de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour nous. C'est pas de dire, bon, de toute façon, on est fichu, alors n'essayons même pas, et puis espérons que Dieu va envoyer une ou deux ou trois personnes qui sont à ce niveau. Mais nous c'est impossible. Non, c'est pas ça. C'est le contraire. Tout le monde devrait être à ce niveau. Et parmi tous, on choisit quelques hommes pour nous mener dans l'Église. Ça, je pense, c'est l'idéal. Maintenant, vous savez sur quoi travailler, mes amis. Nous savons sur quoi travailler. Choisis un de ces points cette semaine. Peut-être choisis celui où tu es le plus faible. Hein? Tu reprends la liste, tu dis, là, je suis vraiment pas à niveau. Demande à Dieu de te mettre au niveau. Et une fois que tu as et au niveau, tu vas au deuxième. Et au troisième, 21 critères. Moi, c'est ce que je crois que Dieu veut. Alors, ça ne veut pas dire que si l'on correspond à ces critères, on est automatiquement ancien. Et cela ne veut pas dire non plus que si on ne correspond pas à ces critères, qu'on ne peut rien faire dans l'Église. Ça n'a rien à voir. Ces critères sont pour être ancien, c'est tout. Et on verra ce que c'est pour être diacre la prochaine fois. Mais on peut tout à fait servir sans être ancien. On peut enseigner, chanter, prier, faire un tas de choses dans l'Église. Et dernière chose, si vous êtes ici ce matin et vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'êtes pas chrétien et vous voyez ces qualifications, vous dites, mais vous êtes fou quoi, c'est impossible. Non mais est-ce que vous vivez dans le vrai monde aujourd'hui? Est-ce que vous vivez dans le vrai monde? Où est-ce qu'on va trouver des gens comme ça? Mais écoutez, vous savez quoi? C'est impossible sans qu'un homme soit totalement transformé par Jésus-Christ. Tout commence là. Dans Galates 2:20, Paul a dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la clé. Si tu n'es pas chrétien, Christ peut rentrer dans ton cœur. Il peut transformer ta vie. Il te pardonnera ton péché. Il te donnera la vie éternelle. Et il recommencera à reconstruire ta vie. Et qui sait, un jour, tu pourras parfaitement refléter ces critères. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc ne sois pas découragé, sois encouragé. Si tu ne connais pas Christ aujourd'hui, laisse Christ changer ton cœur. On va prier. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher pendant que je prie. Seigneur, merci de tout cœur pour la parole de Dieu qui, de nouveau, aujourd'hui, nous étonne dans sa clarté, Seigneur. Merci pour la Bible. Merci pour chacun et chacune ici, Seigneur. Oui, on se sent tous écrasés, moi le premier, car nous voyons que la barre de Dieu est très haute. Seigneur, je te prie, oh, je te supplie, et surtout nous qui sommes justement en train de rechercher de nouveaux anciens dans l'Église, Seigneur, que toi, tu suscites des hommes que l'Église perçoit comme étant qualifiés. Oh, des hommes qui ne sont pas parfaits, ça c'est évident, Seigneur. Mais dont le cœur et le désir est de vivre conforme à ta parole. Seigneur, fais ton œuvre et merci de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Et quand ça...